Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Affaires internationales, c'est la rubrique animée par Thierry de Montbrial et François Dorcival, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Parmi les sujets brûlants de l'actualité internationale, ils ont choisi, dans cette émission enregistrée début octobre 2009, d'évoquer la Russie et l'Iran. Retrouvons immédiatement François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, nous sommes réunis tous les deux pour cette émission éclairage que nous allons tenir tous les mois, qui va s'adresser pour l'essentiel aux auditeurs de Canal Académie et qui va se consacrer à l'actualité internationale. Thierry de Montbrial, vous êtes le fondateur et le directeur général de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, dont le président du conseil d'administration est aussi notre confrère puisqu'il s'agit de Bertrand Collomb. L'IFRI, depuis 30 ans, depuis sa création, a organisé plus de 1400 conférences, 130 colloques internationaux, 450 rencontres avec les plus hautes personnalités du monde. Or, Thierry de Montbrial, vous venez de publier le Ramsès 2010, c'est-à-dire le rapport annuel de l'IFRI, et c'est son 28e numéro, avec ses perspectives mondiales, continent par continent. Dans vos perspectives précédentes, vous écriviez que ce siècle avait commencé en 2008. Alors, nous voici maintenant peut-être en sortie de la crise financière. Nous allons voir si c'est le cas. Nous n'en avons pas fini avec les soubresauts de la planète. Voilà donc qui va faire l'objet de cet éclairage sur les affaires du monde, ce rendez-vous mensuel. En ce début du mois d'octobre 2009, nous allons commencer par l'Amérique et la Russie. L'Amérique de Barack Obama qui a accueilli tout récemment à Pittsburgh les 20 grandes puissances et la Russie qui ne cesse d'affirmer son rôle, celui d'un acteur clé de l'avenir de l'Iran et du conflit en Afghanistan. Or, cher Thierry de Montbrial, vous revenez de Russie, vous avez même déjeuné avec Vladimir Poutine. Et je voudrais que vous nous disiez quel est le climat qui règne en ce moment dans ce pays, ce que vous avez retenu des échanges que vous avez eus, en quoi ceci vous permet de voir un peu ce qui se prépare.
Alors, tout d'abord, s'agissant de la crise économique, je suppose qu'on va en reparler, oui. Mais parmi ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, très précisément, la Russie est incontestablement le pays qui a le plus souffert de la crise et qui souffre encore. Sommes-nous sortis de la crise, entre parenthèses, je n'en suis pas convaincu, mais bien ça, sûr. On le verra après. Alors, il y a donc un problème économique, mais cela est dû, s'explique par le fait que quand un pays sort de 70 ans et plus de communisme et précédemment d'un régime autocratique, il ne faut pas s'imaginer que les racines soient très profondes, les racines du nouveau capitalisme russe. Oui. Mais le point important, c'est que ceci n'empêche pas en effet la Russie de vouloir s'affirmer comme une grande puissance, et ceci pour des raisons géopolitiques qui sont, ou géostratégiques qui sont celles qu'elles ont toujours été, c'est-à-dire la position de la Russie sur le continent eurasiatique. Et je crois que la Russie actuelle, la Russie de Poutine, de Medvedev, veut absolument avoir des liens solides avec le monde occidental. Il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Mais elle veut aussi que ses intérêts soient respectés et elle joue un jeu relativement subtil. Mais je ne perçois aucune dérive de ce côté qui pourrait rappeler quoi que ce soit du genre de la guerre froide. Et ça, je crois que c'est très important et je me félicite du reste que Barack Obama l'ait bien compris.
Alors, il l'a bien compris en annulant, en renonçant au bouclier antimissile qui avait été décidé à la fin de l'année 2006 par Robert Gates et George Bush. L'a-t-il fait en sachant qu'il aurait une contrepartie du côté russe ou l'a-t-il fait gratuitement ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu une négociation de contrepartie très précise portant, par exemple, comme on l'a dit, sur l'Iran. Je ne vois pas les choses comme cela. Je crois de toute façon que cette affaire est extrêmement mal emmanchée, de toute manière, parce que le dossier sur le plan technique était relativement douteux, quand je dis, et sur le plan stratégique également. Technique, c'est-à-dire l'efficacité de ces fameux systèmes antimissiles. Sur le plan stratégique, c'est une affaire très largement débattu. Et je crois que les conséquences sur le climat des relations qu'on appelait Est-Ouest étaient également extrêmement dommageables. Donc je pense que si le dossier, disons, technique et stratégique avait été beaucoup plus convaincant qu'il n'était, je pense que Obama aurait pu persister. Mais il faut bien voir que le problème d'Obama, qui se trouve d'ailleurs pour le moment dans beaucoup de difficultés. La conjoncture actuelle pour ce pauvre Obama n'est pas bonne. Mais le problème d'Obama, c'est d'essayer de se rabibocher partout où il le peut sur la planète, de façon à pouvoir se concentrer sur les problèmes essentiels. Et les problèmes essentiels, pour l'instant, du point de vue de la politique extérieure, c'est incontestablement du côté de l'Afghanistan, enfin de l'Irak et surtout de l'Afghanistan.
Et absolument. Or, pour ce qui est de l'Afghanistan, on sait très bien que lorsqu'on a 70 000 ou 100 000 hommes sur place, il faut pouvoir les ravitailler, non seulement en alimentation, mais aussi en armement, en munitions, etc. Et l'on voit bien, en regardant la carte de l'Afghanistan, que lorsque les routes du sud deviennent difficiles à emprunter, il faut bien emprunter celle du nord. Or, celle du nord exige naturellement l'accord de la Russie. Alors, il est clair que dans cette affaire d'Afghanistan, il semble qu'il y ait bien un accord tout au moins tacite entre les Russes et les Américains.
Enfin, je crois qu'il y a d'une manière générale un accord tacite entre ce qu'on va appeler les grandes puissances, pour simplifier, pour éviter la propagation de ce que j'appellerais l'esprit révolutionnaire. C'est pourquoi, dans le monde actuel, que j'aime qualifier personnellement de multipolaire, hétérogène et globale, hétérogène mettant l'accent sur l'hétérogénéité des idéologies, il y a un point sur lequel les pôles hétérogènes de ce système peuvent se mettre tous d'accord, c'est d'empêcher la multiplication des ferments de désordre et en particulier des zones, des unités politiques non étatiques qui sont susceptibles, qui seraient susceptibles de déstabiliser la planète et en particulier à travers les armes nucléaires, car le problème majeur de la prolifération nucléaire, à mon sens, n'est pas tant celui de la prolifération des États, bien que ce soit un problème grave, mais surtout la possibilité pour des unités non étatiques, des unités terroristes, d'acquérir l'arme nucléaire. Alors, de ce point de vue-là, l'enjeu de l'Afghanistan est énorme et je crois qu'il y a des raisons très très puissantes pour que les États-Unis, les pays de l'Union européenne, la Russie et la Chine d'ailleurs également s'entendent. Mais pour que ça marche, il faut également pacifier un peu les alentours, y compris d'ailleurs l'Iran, parce que l'Iran est un élément clé aussi bien pour l'Afghanistan que pour l'Irak par exemple.
Mais oui, parce que l'Iran est un élément clé dans la mesure où effectivement l'Iran prétend détenir en tout cas l'énergie nucléaire, et tout montre que, au-delà de l'énergie nucléaire, l'Iran souhaite se doter d'un armement qui puisse être nucléaire. En tout cas, il vient de montrer qu'il disposait des missiles, et ça n'est pas chez les Iraniens un élément si neuf que cela, car quand on se rappelle des prétentions du Shah il y a plus de 30 ans, lui aussi voulait avoir son armement nucléaire dans la région. Donc, il y a là une continuité, je dirais, impérial. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en effet, l'Iran devenant détenteur de telles armes, on peut s'interroger sur le fait que des groupes puissants en matière de terrorisme puissent s'en emparer à leur tour.
Oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. D'abord, indépendamment de cette question des armes nucléaires, l'Iran est une grande puissance et aucune stabilité n'est possible dans la région sans l'Iran. Et par conséquent, ceci vaut pour l'Afghanistan, ceci vaut également pour l'Irak. Donc il faut s'entendre d'une manière ou d'une autre avec l'Iran. Alors, s'agissant de la question nucléaire, en effet, comme vous le dites, c'est une très vieille question et c'est une question qui est exacerbé aujourd'hui du fait que le Pakistan dispose de l'arme nucléaire, qu'Israël dispose de l'arme nucléaire, et naturellement l'Inde. Mais enfin, du point de vue de l'Iran, c'est davantage les pays proches. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'il est possible de les en empêcher? Naturellement, ils affirment que ce n'est pas leur but. Leur but, d'ailleurs, est plus vraisemblablement d'atteindre ce qu'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire une position qui est celle du Japon aujourd'hui. C'est-à-dire une position qui met le pays qui y accède à, on va dire, quelques mois de l'accès effectif à la bombe, au cas où il déciderait de franchir le dernier pas. En face de cela, on trouve la volonté traditionnelle des détenteurs de l'arme, une fois qu'ils sont parvenus à la détenir, d'empêcher, n'est-ce pas, que le club ne s'étende, ce qui est la même mécanique depuis le début. Et évidemment, aujourd'hui, ce problème est particulièrement exacerbé concernant l'Iran en raison de la nature du régime iranien, qui n'est pas le régime du Shah qui était, entre guillemets, ami des Occidentaux, en raison des prises de position de extrêmement violentes, particulièrement depuis l'élection d'Ahmadinejad vis-à-vis d'Israël. Et puis la crainte également que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, immédiatement après se pose la question de pays comme l'Arabie saoudite,
Et l'Égypte, etc.
Donc c'est une question extrêmement délicate, en effet, mais je doute personnellement que les Iraniens renoncent. D'abord, encore une fois, ils ont toujours affirmé qu'ils n'avaient pas ce but. Je suis évidemment convaincu qu'ils l'ont fondamentalement, mais je doute que, quoi qu'il arrive, ils y renoncent complètement. Néanmoins, il est évident que les pays, les « haves », comme on dit en anglais, ceux qui détiennent effectivement l'arme nucléaire, ont tous intérêt à retarder, y compris d'ailleurs la Russie. Mais ce qui n'empêche pas la Russie, en même temps, de vouloir avoir de bonnes relations avec l'Iran.
Alors, là qui où est j'ai un client et un fournisseur.
Absolument. Et d'où la question des sanctions, n'est-ce pas?
Oui.
Où la France, comme c'est lui d'ailleurs, en pointe, ce qui est nouveau. Là où j'ai un léger désaccord avec ce que vous disiez, c'est que je ne pense absolument pas que l'Iran veuille aider des unités terroristes à acquérir l'arme nucléaire. Sûrement pas. Sûrement pas. Ça, c'est un jeu auquel a joué d'ailleurs le Pakistan. Mais maintenant, cela est fini, du moins on l'espère. Mais je crois que l'Iran n'aurait aucun intérêt à jouer ce genre de jeu.
Comment expliquez-vous que l'attitude occidentale et américaine soit si différente en ce qui concerne l'Iran et la Corée du Nord?
C'est extrêmement simple, parce qu'il y a un paradoxe, mais qui est ancien, que j'ai d'ailleurs développé dans mes éditions successives de Ramsès et avec le livre qu'on a résulté, qui s'appelle « 20 ans qui bouleversèrent le monde ». Le paradoxe, c'est que toutes les grandes puissances ont intérêt à préserver le régime de la Corée du Nord. Et quelles sont les grandes puissances concernées? C'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Corée du Sud, c'est-à-dire le Japon, et c'est-à-dire la Chine. Pour des raisons différentes, ces cinq puissances ou cinq pays qui sont aux premières loges dans l'affaire de la Corée du Nord ont un intérêt commun qui est surtout d'empêcher l'effondrement du régime de Kim Jong-il, qui d'ailleurs le sait parfaitement, parce que ces gens-là sont tout à fait malins, ils savent bien analyser les situations. Dans le cas de l'Iran, c'est tout à fait
différent.
Pourquoi
ont-ils intérêt donc à maintenir le régime?
Parce que pour des raisons diverses, aucun n'est prêt à affronter l'énorme raz-de-marée politique qui serait consécutif à l'effondrement de la Corée du Nord, et qui d'ailleurs se traduirait entre autres par des millions de réfugiés, et ça c'est aussi un problème pour la Chine. Mais il faut voir qu'une Corée réunifiée, au-delà des coûts de la transition, sur lesquels d'ailleurs on débat beaucoup, entraînerait une modification absolument radicale des grands équilibres de l'Asie de l'Est, avec toutes sortes d'incertitudes et vraisemblablement une remise en question des positions des uns et des autres. Or, personne ne le veut pour l'instant. Les États-Unis n'ont absolument pas envie de perdre cet instrument essentiel de la légitimité de leur présence dans la région. La Chine n'est pas prête à avoir une Corée qui pencherait plus vraisemblablement du côté, disons, nippo-occidental que de leur côté, et ainsi de suite. Alors que pour l'Iran, au contraire, tout le monde souhaiterait, avec des degrés différents en intensité, voir disparaître le régime islamiste.
Oui, on le comprend très bien. Cela dit, en ce qui concerne l'expansion de l'islamisme radical, et donc le fait qu'en plus les tribus les plus marquées par ce fondamentalisme en Afghanistan sont frontalières avec l'Iran, il y a évidemment une préoccupation très forte des Occidentaux à ne pas voir l'Iran entretenir un tel régime qui déborderait donc sa frontière du Nord.
Oui, mais l'Iran n'a pas non plus intérêt à voir s'étendre cet esprit révolutionnaire qui pourrait se retourner contre lui. Il ne faut jamais oublier que les Iraniens sont probablement l'une des civilisations les plus subtiles, si je puis dire, de la planète. Et en particulier, ne sous-estimons pas la qualité, le professionnalisme de leur diplomatie qui est absolument remarquable. Ayons aussi en tête que beaucoup des responsables du régime iranien, je pense surtout aux technocrates en tout genre, aux gens qui tiennent les positions, sont des gens qui ont fait des études aux États-Unis autrefois, qui sont des gens qui sont extrêmement avertis du monde occidental. Voyons également clairement qu'un homme comme Ahmadinejad, dont les positions nous révulsent et nous indignent, mais ce qu'il fait est très calculé. Et les destinataires, d'ailleurs on l'oublie trop souvent, sont beaucoup moins les Israéliens que les Arabes, parce que le message d'Ahmadinejad, quand il parle de la destruction d'Israël, etc., le message s'adresse fondamentalement aux opinions publiques arabes en disant « Vous voyez, nous qui ne sommes pas arabes, qui sommes bien sûr musulmans mais pas arabes, nous défendons mieux vos intérêts que vos régimes corrompus qui sont entre les mains des Américains, n'est-ce pas ?» C'est ça le petit jeu. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est une très grande civilisation, l'Iran, il faut toujours s'en souvenir, et qu'ils n'ont absolument pas envie d'aller au-delà d'un degré de désordre dans leur voisinage qui risquerait, je le répète, de se retourner contre eux. Tout cela est extrêmement subtil.
L'enjeu, c'est donc l'Afghanistan. Est-ce que vous croyez que...
Et l'Irak, malgré tout, parce que...
Certes, c'est vrai, ce sont
les deux ailes. Ne considérons
pas
que la question iranienne est réglée.
Non, certainement non. Mais en revanche, c'est en Afghanistan aujourd'hui que se trouvent les Occidentaux aux prises avec les talibans, que les Américains nous disent qu'ils veulent changer de stratégie. Quelle stratégie de changement? De quoi s'agit-il? Quelles sont, là encore, les perspectives que l'on peut avoir devant nous?
Alors, tout d'abord, lors de mon voyage en Russie, auquel nous faisions allusion tout à l'heure, j'ai également une rencontre avec Lavrov,
qui est le
ministre des Affaires étrangères, qui est un très grand diplomate, hein, de grand professionnalisme. Et je lui ai demandé, pour voir comment il allait répondre, à vrai dire, je lui ai demandé comment il définirait une défaite des États-Unis, puisqu'on était dans cette perspective, et souvent soulevée par les Américains eux-mêmes, bien entendu.
Bien sûr. Et beaucoup par les Européens.
Naturellement, beaucoup par les Européens. Il a répondu, je ne sais pas comment le définir, mais je suis sûr que tout le monde le comprendrait immédiatement. Bon, c'était une boutade, mais c'est très juste. Et le problème, c'est que tout retrait américain serait une défaite. Enfin, c'est la notion de retrait. Bon, c'est la tentation du retrait. Et du reste, mais nous n'avons sans doute pas le temps d'en parler aujourd'hui, je pense aussi à ceux des Français qui ont développé ces dernières années des mentalités un petit peu néoconservatrices, pour faire un clin d'œil à l'Amérique de Bush. Je pense que quand on s'engage militairement quelque part, il faut toujours penser à l'avance aux conditions de sortie. Ce fut vrai pour 2003 et la guerre d'Irak, mais également pour l'Afghanistan, parce qu'au départ, on aurait pu envisager aussi quelque chose de très différent, qui eût consisté en des frappes sélectives pour détruire les camps, etc., et refaire des interventions de coup de poing autant que nécessaire. Mais à partir du moment où on a envahit le territoire et où on l'occupe, se posent des problèmes redoutables et qui font que se retirer ensuite peut laisser derrière une situation pire. Et c'est bien à cela que nous faisons allusion. Alors, le problème aujourd'hui, c'est comment conquérir l'âme des talibans. Et quelqu'un disait...
Et des Afghans.
Et naturellement des Afghans eux-mêmes. Et il y a une très bonne formule, n'est-ce pas, qui est « Les talibans commencent à régner en Afghanistan là où se terminent les routes ». C'est profondément juste. Et malheureusement, nous nous trouvons dans la situation suivante. D'abord, traditionnellement, dans la culture américaine de la guerre, il y a une attention insuffisante portée aux problèmes civils. Les Américains ont trop peu jusqu'ici, sont trop peu préoccupés justement des populations. Ceci d'ailleurs valait aussi à un certain degré pour l'Irak. Et deuxièmement, de toute façon, pour s'occuper sérieusement des populations, c'est-à-dire à venir en aide aux populations, aider à la reconstruction, etc., les écoles, enfin tout, ça représente aussi des montants absolument énormes. Et qui va payer ? Donc, la définition d'une nouvelle stratégie viable est une affaire extrêmement complexe. Ce qui explique pourquoi les États-Unis ont besoin de, je reviens au point de départ, pourquoi ils ont besoin de limiter leur bisbille à l'extérieur. Ils ne peuvent pas avoir le monde entier contre eux. Et donc, en particulier avec les Russes, les Chinois, etc. etc. Et ceci indépendamment même des considérations de politique économique dont nous avons peu parlé.
Mais alors, justement, les sujets que nous venons d'aborder ont pas mal masqué ce qui s'est passé à Pittsburgh. Pittsburgh devait être le 3e sommet du G20, consacré donc aux suites de la crise financière devenue économique et sociale, et à son traitement. Et l'on a vu qu'en réalité, on s'était surtout occupé de l'Iran et de sujets de politique étrangère. Comment les choses s'organisent-elles en réalité sur ces deux plans différents ?
Il y a un très vaste sujet qui personnellement me passionne, qui est celui de la réorganisation de la gouvernance mondiale, qui touche à de nombreux aspects. Et le risque, c'est que les G, le groupe, n'est-ce pas, quel que soit le numéro qui suit, s'occupent, à cause de la pression du court terme, de questions qui ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles ils ont été formés. Alors, le G20, la légitimité du G20 est fondamentalement de nature économique. Et on attend du G20 qu'il s'occupe sérieusement des problèmes économiques. Alors, le premier G20, celui de Londres, a été une réussite en ce sens que psychologiquement, il a contribué au retournement de la situation. Celui-ci, à mon avis, n'est pas entièrement convaincant. Car, indépendamment de ce que vous venez de dire, sur le plan strictement économique, je crois que l'accent a trop été mis sur des questions certes importantes, mais qui ne sont pas des questions les fondamentales, comme la question des rémunérations, des bonus, etc., et insuffisamment sur les problèmes techniques, d'ailleurs, mais absolument fondamentaux, c'est-à-dire les conditions de nature à éviter la reproduction d'une crise financière comme celle qui a ravagé le monde l'an dernier. Et je pense à la question des fonds propres et ainsi de suite. Et je pense que très rapidement, n'est-ce pas, le test de vérité viendra sur la crédibilité de ce G20. Quant aux questions politiques, je pense que ce sont d'autres groupes qui doivent s'en occuper.
Ça pose aussi, d'une certaine manière, la question du crédit dont jouit Barack Obama dans les affaires de la planète aujourd'hui. Je dois dire qu'en relisant la présentation que vous faites du Ramsès 2010 et vous l'achevez à la mi-juillet, vous vous interrogez déjà sur le grand capitaine et les risques qu'il a vis-à-vis de l'opinion américaine, ce qui, depuis, n'a fait que s'aggraver.
Et je vais aller plus loin. Vous savez, j'ai mis le dernier le point, au final, le 16 juillet, je crois. Et je suis allé aux États-Unis à la fin du mois de juillet. Et je dois dire que j'ai été effaré, car j'ai vu vraiment le très grand pessimisme vis-à-vis d'Obama, y compris des personnalités éminentes, dont je ne vous dirai pas les noms, mais qui disaient dans des réunions restreintes, qui évoquaient la probabilité qu'Obama soit assassiné. Enfin, des choses que je n'ai... Bien sûr, c'est quelque chose qu'on murmure depuis longtemps, mais j'étais extrêmement surpris. Et j'ai vu un déchaînement de racisme aussi contre Obama, qui s'est plutôt amplifié, des combats des néoconservateurs, plus ces difficultés internes autour de la question de la santé, etc. Là, tout récemment, il y a quelques jours, je crois qu'il a fait un faux pas aussi en allant à Copenhague pour défendre le dossier de Chicago pour les Jeux Olympiques. Je crois que Obama traverse une mauvaise passe. Alors, s'il devait échouer, ce qu'à Dieu ne plaise, je pense que ce serait une catastrophe pour la planète.
Bien, cher Thierry Monbrial, nous nous reverrons donc dans un mois et j'imagine que ceci constituera un peu l'introduction de notre prochain débat puisque nous aurons là avancé dans le domaine intérieur aux États-Unis. Absolument. Et donc la position de Barack Obama à l'égard de la réforme de son système de santé. Encore une fois, merci.
Merci, chers confrères et amis.